Édouard de Lépine, bonjour.
Bonjour.
C'est toujours avec le même plaisir qu'on se retrouve puisque nous sommes en train de parcourir l'histoire de la Martinique. Merci de nous donner la possibilité d'expliquer aux Martiniquais comment les événements se passent, comment cette histoire s'est déroulée. Comment allez-vous?
Mais ça va, ça pourrait aller mieux, mais enfin, ça va en gros.
Bon.
Je n'ose pas me plaindre.
D'accord, très bien. En tout cas, moi, je vous vois en pleine forme, hein, en tout cas, en pleine effervescence intellectuelle, comme d'habitude, parce que nous préparons généralement ces émissions, mais nous avons aussi l'occasion de discuter, et c'est toujours un vrai plaisir d'échanger. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du 23 mars 1958, qui est une date importante dans la vie politique de la Martinique, qui est la date de la création du Parti progressiste martiniquais. Et nous allons cette fois-ci non pas nous allons plutôt du moins chercher à savoir quelles sont les raisons qui ont fait que Césaire, qui à l'époque était communiste, a décidé de monter son propre parti, n'est-ce pas?
Oui, non, je crois que c'est une date importante en effet, mais je sais pas si, pas seulement le premier parti progressiste martiniquais, mais le premier parti politique martiniquais. Martiniquais, honnêtement, qui n'est pas rattaché à un autre parti, etc. Bon, malheureusement, moi, je peux difficilement en parler, je veux dire, d'un point de vue, si je puis dire, personnel. À l'époque, je suis plutôt en dehors de la politique. J'ai aussi rompu avec le PC après le vote des pouvoirs spéciaux à Guimolé en 58. Je ne reprendrai ma carte au Parti communiste français qu'après le 13 mai 58, c'est-à-dire après le coup d'État qui a finalement ramené au pouvoir le général de Gaulle. Bon, à ce moment-là, je défilais dans les rues, hein, en disant le fascisme ne passera pas, etc. Bon, sans rien comprendre d'ailleurs, parce que bon. C'est vrai que c'était comme ça. Mais bon, je crois que c'est un mouvement effectivement extrêmement important. Extrêmement important. Bon, j'étais un petit peu surpris que Césaire a accepté en définitive de créer un parti politique. Il me semblait, enfin, il m'a semblé, aussitôt après sa démission, quand je l'ai rencontré à plusieurs reprises, entre le 24 octobre et le 17 novembre, me semble-t-il, la date à laquelle il revient à la Martinique, je l'ai rencontré avec d'autres camarades, notamment avec Philippe Duval, qui était à l'époque maire de Saint-Esprit en congé administratif en France. Et bon, j'avais l'impression qu'il avait arrêté qu'il avait fini avec la politique, qu'il voulait renoncer à la politique. Bon, alors, j'ai bien compris, évidemment, après. Les élections de février, bon, il ne pouvait pas non plus se retirer complètement. Il venait de remporter un grand succès aux élections municipales de février. Les communistes lui avaient demandé de démissionner. Il avait répliqué non, non, non. Ils disent démissionner, je dis démissionnons. Hein, c'est-à-dire que, bon, il voulait que tout le monde donne la parole au peuple. Littéralement. Bon, et la parole au peuple, ça lui a donné quelque chose comme plus de 80% de voix à ces élections du 10 février 57, et moins de 5% au Parti communiste, qui n'a même pas eu de quoi faire siéger un seul conseiller au nouveau conseil municipal.
Une liste qui était menée, je crois, par Gratian.
La liste était menée par Gratian, qui était un homme considérable, enfin, à mon avis, l'un des hommes les plus populaires, et probablement, enfin, en tout cas, à mon esprit, j'ai toujours gardé les meilleurs rapports avec Césaire. Je me trouvais d'ailleurs chez lui, avec Gratian, le soir de cette ma foutue manifestation après laquelle j'ai rompu avec Césaire, c'est-à-dire. De la part des familles Bissol, Lamont, Sylvestre et toute la racaille, vous êtes priés d'assister aux obsèques du PCF, décédé à l'âge de 11 ans. La levée du corps aura lieu à la mairie de Fort-de-France. L'inhumation aura lieu au 32 rue Émile Zola. Enfin, une prière, s'il vous plaît. Bon. Moi, tout ça, ça m'a vraiment emmerdé.
Ce texte vous a beaucoup touché,
Ah
Édouard de
oui, ça
Lépine.
m'a touché vraiment. J'étais chez Gratian ce jour-là. J'étais chez Gratian, il n'y avait pas des masses de type, hein. Chez Gratian. Et ça m'a beaucoup emmerdé, parce que Gratian, je le connaissais pas encore, ou je connaissais assez peu par rapport à Césaire ou par rapport aux autres, je l'ai surtout connu après. Mon retour à la Martinique en 60-61. Mais bon, c'est vrai que ça m'a beaucoup emmerdé.
Alors, ça c'est pour le contexte. Oui. Maintenant, revenons sur les vraies raisons de la création du Parti progressiste martiniquais. Vous considérez-vous, en tant qu'historien, qu'il y a, disons, 5 vraies grandes raisons? Quelles sont-elles?
Oui, je pense à des raisons, je ne sais pas, il y en a probablement plus. Hein.
Bon, des motifs, disons.
Je veux dire, il y avait à partir de 55-56, il y a eu de très grosses, très très grosses divergences avec le PC. D'abord sur la question des rapports avec, si je puis dire, avec la création littéraire, avec la littérature, avec la poésie. Bon, et c'est une histoire que nous avons vécue de près parce que, bon, il y avait un copain en cause aussi, qui était René de Pestre. Bon, c'est un truc que nous avons mal vécu à l'époque.
Bon. L'idée à l'époque, c'était quoi? C'est que le
non,
parti s'intéressait
le parti, à... Le parti doit laisser les gens produire, oui, leur littérature, leur roman, leur poème.
C'est la liberté de penser, quoi, en fait.
Une liberté totale, c'était la conception de Césaire. Bon, parfois, on a plus ou moins mal réagi. Bon, alors, c'est vrai qu'on a tendance à donner, en tout cas, moi, j'étais... d'autant à donner raison à Césaire, mais sans beaucoup réfléchir à ces questions-là. Je n'ai, c'était Césaire, c'est tout. Hein? C'était le petit poème qu'il avait fait sur De Peste, la réponse à De Peste. Hein? Foutant, De Peste, foutant, laisse dire Aragon que le poème tourne bien ou mal sous ses gonds. C'est pas d'autre affaire. Hein, il faut se foutre de ça, il faut se foutre d'Aragon, il faut continuer d'écrire, etc. Bon. Et ça, évidemment, bon, je trouve ça extraordinaire. Bon.
Est-ce que la question de l'identité à ce moment-là a été un motif?
La question de l'identité se pose à Césaire en 1935, c'est-à-dire un moment où il est tout seul à poser le problème.
Est-ce que c'est un élément déterminant dans la création du Parti progressiste?
Je pense que c'est un des éléments. Mais enfin, c'est la deuxième partie de mon livre, Nous sommes des nains sous les épaules d'un géant, parce que effectivement, la rupture avec le PC ne vient pas simplement des causes immédiates, c'est-à-dire la question du mot d'ordre du parti, égalité des droits ou participation des Martiniquais, la gestion de leurs propres affaires, bon, ou bien la guerre d'Algérie, l'indépendance, quoi, enfin en tout cas la paix en Algérie, tout de suite, ou bien le congrès, le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique qui a lieu à peu près à la même époque, enfin, mais qui ne sera bien connu, c'est le 20e congrès du PCUS, du Parti communiste de l'Union soviétique, se fait en février, mais on ne connaîtra véritablement qu'à partir du mois de juin en France, et grâce aux Italiens. Grâce à l'UNITA, le journal du Parti communiste italien, le contenu du 20e congrès, le contenu du rapport Khrushchev, plus exactement.
Et en particulier avec toutes les exactions.
Avec tous les crimes de Staline, c'est-à-dire les choses pendant des années, jusqu'à 1977-78.
Et ça, c'est insupportable pour Césaire.
C'est insupportable. Je crois que Césaire, là, il a très très mal digéré ça. En particulier le silence de Thorez, quand il l'a rencontré au début d'octobre 56, qui a parlé de n'importe quoi, bon, y compris de la littérature, etc. Bon. Mais pas de ce rapport Khrushchev qui était connu de tout le monde pratiquement, enfin de tous les intellectuels en tout cas français, y compris du Parti communiste français, puisque Thorez lui-même était au 20e congrès et que la délégation qui a été au congrès avait reçu ce rapport Khrushchev en février comme tous les autres partis. Donc, bon, c'est vrai qu'il n'a pas. D'autant qu'il y avait d'autres camarades qui connaissaient ça, qui avaient été en Pologne, qui avaient discuté avec, qui étaient en Yougoslavie, et qui étaient parfaitement au courant de ces questions-là. Mais enfin.
Oui, et sur le plan local, sur le plan avec martiniquais, et en particulier de ses relations avec les communistes martiniquais.
Non, moi je crois que c'est peut-être dans l'immédiat, peut-être ce qui a provoqué le plus de choc. Il y a eu un congrès fédéral, un congrès de la fédération du parti, le 11e congrès, la 11e conférence fédérale du Parti communiste à la Martinique en août 1955, et le parti a continué avec développer la lutte du peuple martiniquais pour l'égalité des droits, la paix, contre la misère et le chômage. Et Césaire avait fait comprendre depuis plusieurs mois que bon, c'était pas un mot d'ordre juste.
Il a demandé de changer ce mot d'ordre-là.
Il a demandé. Non. Quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale par le gouvernement de Garfon, qui était le président du Conseil, parce que j'étais pas le Premier ministre, le président du Conseil, le 2 décembre 1955, Césaire a refusé de se présenter à l'élection qui viendrait, quoi. Il a refusé. Et à ce moment-là, le comité fédéral a dû, mais le bureau fédéral, parce qu'il n'est même pas composé que le comité fédéral, le bureau fédéral a changé le mot d'ordre, l'égalité des droits, pour adopter le mot d'ordre pour une plus large participation des Martiniquais à la gestion de leurs propres affaires, qui était plus proche de la pensée de Césaire. Enfin, en tout cas, Césaire avait exprimé ça à plusieurs reprises, depuis pratiquement 1949. Il l'avait exprimé dans un ouvrage qui venait de paraître, de Daniel Guérin, sur l'introduction à ce livre de Daniel Guérin sur la décolonisation pour les Antilles, etc. Et Césaire n'a pas accepté ça. Bon, mais le Parti communiste a accepté. Le Parti communiste a accepté. Et apparemment, bon, ça n'a pas été trop mal reçu, puisque Césaire, non seulement il a été réélu, mais il a été réélu brillamment. L'un des mieux élus parmi les élus communistes de la nouvelle assemblée du 2 janvier 56, c'est du 2 janvier 57, pardon, du 2 janvier 57, oui. C'est Césaire, avec plus de 60% des voix. Et bon, mais même à cette époque-là, le rapport de la 11e conférence fédérale, à l'époque qui s'est tenue en août 1955, mais le livre lui-même, la petite brochure, n'a paru qu'en mars 1956. Alors, bon, quand le PC a adopté ce mot d'ordre, quand la FEDE a adopté ce mot d'ordre, participation des Martiniquais à la gestion des propres affaires, la droite en particulier, enfin Calvert, je n'aime pas le traité Calvert d'homme de droite, parce que je ne crois pas qu'il était à droite non plus, mais enfin, quand Calvert a lui compris parfaitement où ça conduisait, enfin, la question de l'autonomie, etc. Les communistes ont devenu, mais où est-ce qu'il a vu qu'on ne nous avons jamais parlé de l'autonomie, etc. Enfin, nous n'avons jamais dit ça.
Mais parce qu'on l'oublie, à l'époque, les communistes sont quand même assimilationnistes.
Il y a beaucoup d'assimilationnistes. Il y a beaucoup d'assimilationnistes. Et moi-même, je me suis fait traiter de tous les noms. J'étais rentré avec la volonté de soutenir Césaire. De ce truc-là, d'abord je me suis fait foutre à la porte, aussi bien au François, par des copains avec lesquels j'étais très bien, j'ai été très bien avec eux par la suite, parce que je les avais connus, j'étais membre quand j'étais au François, à l'UJRF, ou à la jeunesse communiste de cette époque-là, ou bien au Robert, chez les Labours, c'était des communistes qui m'avaient connu comme membre de la jeunesse communiste ou de l'Union de la jeunesse républicaine de France. à cette époque-là.
Alors, c'est quand même important d'expliquer cette partie-là, Édouard de Lépine. Pourquoi? Parce que on peut se demander pourquoi, alors que vous êtes communiste, vous êtes un communiste convaincu, pourquoi vous soutenez dans une certaine mesure la démarche de Césaire qui est...
Ah ben
Ah
oui,
oui,
non,
il faut
non.
nous expliquer parce que c'est quand même un des aspects croustillants
Oui,
aussi de
mais
l'affaire.
enfin, bon, c'est vrai que le mouvement nationaliste, certainement, était très beau, très, beaucoup, beaucoup plus faible que dans la plupart des autres colonies françaises, à part la Guadeloupe, peut-être, et la Guyane et la Réunion. Mais enfin, bon, dans le mouvement, le 1940, 50, les années 50, c'est les années de la décolonisation. Hein, avant même la révolte malgache en 1947, c'est bon.
Ce que vous appelez la décolonisation, dans un mot actuel, c'est les luttes pour l'indépendance en réalité.
La lutte pour l'indépendance,
Bon,
bon, ben, ça.
et à ce moment-là, pour vous, Césaire, il va pas monter le Parti progressiste martiniquais, mais il va monter le Parti
Le Parti
communiste martiniquais.
communiste martiniquais, moi, j'ai persuadé de ça. Pas moi seulement, je veux dire, bon. Il y a des camarades, notamment le camarade guadeloupéen, d'une certaine manière, qui a été mon maître. C'est pas Yvon Le Borgne. Bon, il est resté très peu, finalement, à la Martinique. Il est mort assez tôt, malheureusement. Et il avait eu des problèmes avec le PC, Guadeloupe, enfin, la Fédération de la Guadeloupe également. Bon. Mais enfin, bon, c'est vrai que depuis 1953, je cherche une photo où je suis avec lui à Vienne, où nous refusons de défiler derrière l'Union de la Jeunesse Républicaine de France en disant, bon, non, 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 rien à foutre. Et nous allons décider de défiler en tant qu'étudiant martiniquais. Et
Et
pas.
quand vous vous êtes aperçu que finalement il n'était pas question pour Césaire de remonter un parti communiste
Ah oui, ça
martiniquais,
m'a
alors
regardé.
comment vous avez réagi alors?
Ça m'a d'abord désagréablement surpris, si je puis dire, parce que j'ai vu Césaire entre, disons, le 25, la lettre Maurice Thorez, les extraits de la lettre parue dans le Nouvel Observateur, dans France Observateur, ça s'appelle, et le 17 novembre, c'est-à-dire le départ de Césaire pour la Martinique, j'ai vu à peu près très souvent, parfois avec Philippe Duval, qui était en conseil administratif, qui était instituteur, un membre du bureau politique, qui était maire de cet esprit, conseiller général de cet esprit, et Césaire m'avait envoyé chercher. Et donc, on a beaucoup discuté avec Césaire. Bon, alors, c'est vrai qu'il nous a jamais laissé entendre qu'il aurait créé un parti communiste. Moi, à l'époque, on croyait bien qu'il allait foutre le camp, ou revenir peut-être au lycée, ou finir avec ça, quoi. Bon, l'aptitude probablement du parti, la campagne violente qu'il y a eu à partir de novembre 1956 à la Martinique contre la lettre à Maurice Thorez et contre Césaire, ça a probablement peut-être bon, fait évoluer. En tout cas, peut-être ça. D'abord, il a accepté les élections, d'aller aux élections, alors que bon, j'avais l'impression que bon, il serait pas revenu ni à la municipalité ni ailleurs. Bon, il y avait des missions, il voulait laisser tomber l'Assemblée nationale. Bon, mais enfin, c'est vrai que je pense que un de ceux qui ont probablement le plus contribué à le, bon, à lui faire créer un parti. Et peut-être Aristide Maugé, qui était son beau-frère, il avait plusieurs soeurs d'une part, et puis de l'autre côté, bon,
Vous pouvez nous
Maugé.
dire pourquoi? Pourquoi
Non,
lui?
je pense que Maugé était. Bon, il était peut-être plus libre à l'égard du PC, puisqu'il n'avait jamais appartenu au PC. Bon, et puis peut-être qu'il exprimait, je veux dire, des sentiments comme, bon, Césaire posait peut-être en privé ou dans sa famille, les relations familiales, et pas du tout, à la différence de sa femme, de Suzanne Césaire. Et moi, je crois que, bon, c'était. Non, Césaire était pas du tout, prêt, me semblait en tout cas. pas du tout décidé à continuer la vie politique, bon, consacré à ses élèves, à l'enseignement, et à la littérature, à la poésie, au théâtre, etc. Peut-être, enfin, du moins, je pense. Oui.
Alors, Édouard de Lépine, maintenant que vous nous avez donné les raisons qui ont fait que Césaire a monté son propre parti, le Parti Progressiste Martiniquais...
Enfin, les raisons, pas toutes les raisons, parce que, bon, c'est vrai que ça a duré quand même d'octobre 56 à mars 58, il y a 15 à 16 mois qui sont extrêmement importants aussi. Il y a eu des choses importantes. Ça a commencé à discuter, notamment après l'élection de Mauger à la mairie du Gaumont en octobre-novembre 57. Et on m'a dit, mais en fait, je n'ai trouvé aucun papier à ce jour, hein, aucun papier disant un discours de Césaire sur l'autonomie à la campagne électorale qu'il a faite avec Mauger au Gaumont. Je n'ai pas trouvé de texte où il ait pris position fermement pour l'autonomie ou des trucs comme ça. Mais on m'a dit qu'il y a plusieurs camarades, bon, des gens très respectables, m'ont dit que Césaire, c'est là, Roman, le nom de ce camarade m'échappe d'ailleurs, qui était un des responsables du parti, qui a été un des responsables du parti au Roman. Non, pas Ménil, Ménil, surtout pas Ménil.
Non, non, mais pas celui qui est actuellement. Je ne parle pas de celui qui était élu au conseil municipal. Sa parenté, très probablement, non, c'est pas ça.
Non. Il n'y avait pas de Ménil de pas au parti. Ménil, enfin, René Ménil était au parti. Et il était violemment contre, je peux vous dire, violemment contre Césaire à cette époque-là, au moment de la démission. Il a certainement changé par la suite, probablement. Je me rappelle être arrivé chez Césaire, un peu comme ça m'arrivait de temps en temps quand je passais par Fort-de-France, j'allais le voir à la mairie. Et je suis arrivé juste un jour où Ménil venait de passer avec lui. Je me rappelle, il me disait, devine qui était là, à ta place. Alors je lui dis, bon, j'ai aucune idée. Et il me dit, Ménil. Ah, je lui ai dit, vous avez discuté de la Hongrie. Il m'a dit, mais non, tu plaisantes, non. On a discuté de littérature. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Mais bon, c'est pas.
Mais il n'empêche, Édouard de Lépine, que le Parti Progressiste est monté. Le premier balisier est mis en place, d'après ce que vous me dites, à Sainte-Thérèse.
Oui, mais Sainte-Thérèse était le bastion, enfin. Sainte-Thérèse, pas seulement Sainte-Thérèse d'ailleurs, mais Terre-Saint-Ville, la Redoute, Bocconal, la rive droite, le Vassor, Fort-de-France était vraiment communiste, enfin, je veux dire, voter communiste, avait voté Césaire, moi j'ai reçu. Quelques temps plus tard, quand moi je suis revenu au Parti communiste et que je voulais aller vendre, et pas que je voulais, que j'allais vendre justice à Bocconal, à Rive-Droite, on m'a foutu à la porte. Vraiment, des conditions assez épouvantables. Ça se passe en 59-60, c'est-à-dire deux ou trois ans après la démission.
Et dans ce parti, qu'est-ce que Césaire y a mis?
Je crois que c'était vraiment bon, mais je n'ai vu ça qu'après coup. Je veux dire que, c'est-à-dire bon, notamment l'idée que j'ai retenue beaucoup plus tard, la région, l'idée de région, la région fédérée, et ça je ne m'y attendais absolument pas. J'ai découvert ça, l'idée fédérale. La Martinique dans la République française, mais enfin avec la possibilité de gérer ses propres affaires, la responsabilité de la gestion de ses propres affaires. Je crois que c'est ça qui était l'essentiel, peut-être.
Et est-ce qu'à l'époque, le discours des cinq vérités a déjà eu lieu? Est-ce que dès le départ, la question des des cinq vérités. Est-ce que c'est déjà inscrit dans les gènes du parti?
Pratiquement. Bon, dans le discours du 23 mars, qui est un discours remarquable, j'ai publié dans le premier volume, dans le deuxième volume des écrits de Césaire, le tome 2 des écrits de Césaire, le tome 3, des écrits de Césaire. Bon, ce discours est un discours fondamental, je veux dire. C'est un discours qu'il faut lire, qu'il faut relire. Je crois que nos camarades sont en train de découvrir ça. J'ai vu qu'ils ont publié récemment. Peut-être que c'est pourquoi ils m'avaient demandé d'ailleurs un truc sur ma vie de militant progressiste. Bon, mais enfin, c'est vrai que c'est un discours fondamental. C'est un discours fondamental. Bon, à tous égards. Alors, c'est vrai que, bon, c'est pas tout, hein. Moi, à l'époque, j'insistais beaucoup sur les contradictions de l'autonomie, plutôt que sur les avantages de l'autonomie, sur la synthèse qu'il proposait entre les contradictions de l'autonomie et les contradictions de l'assimilation. Moi, j'avais tendance à, bon, privilégier à l'époque, je disais, bon, je sais pas, c'est une fausse rupture. Moi, je croyais que c'était une fausse rupture. J'ai cru pendant un certain temps, c'était une fausse rupture. Et bon, autant, encore une fois, j'ai le plus grand respect pour Césaire personnellement, autant je n'avais pas une confiance absolue dans les gens qui l'entouraient. C'est vrai. Et il y avait des gens qui l'entouraient, bon, avec lesquels je ne me sentais pas beaucoup de sympathie. Bon, même si c'était des gens parfois très sympathiques, hein.
Et vous avez en tête ou pas les noms avec lesquels ils montent le parti? Vous avez en tête les noms avec lesquels ils montent le Parti progressiste, les gens, les quelques noms?
Oui, c'est Aliker, c'est le docteur Aliker, enfin, peut-être le plus proche, son plus proche, le collaborateur le plus immédiat de Césaire, notamment à la mairie de Fort-de-France, c'est il a fait son premier adjoint et que probablement. Gratien et par Gratien. Aliker était le plus vieux conseiller, premier adjoint de l'histoire de France. Je pense qu'il est resté là de 1958 à 1995, quoi. C'était assez exceptionnel.
Mais à cette époque, Édouard de Lépine, le Parti progressiste, c'est quoi? C'est un parti idéologique, c'est une machine politique, c'est un instrument pour le pouvoir?
Qui pose pour la première fois la question, vraiment dans les masses, la question de l'identité de Martinique, de la question de la personnalité collective du peuple martiniquais, la question de la nécessité, de la responsabilité du peuple martiniquais, de la gestion de ses propres affaires. Je crois que ces questions-là, c'est la première fois que c'est posé à la Martinique dans ce terme-là. Alors, il y a eu parfois, bon, à côté des éléments nationalistes, bon, il y en avait. Bon.
Mais c'est en même temps aussi une machine politique pour la conquête du pouvoir.
C'est une machine, je ne crois pas, au départ, en tout cas pas dans l'esprit de Césaire. La preuve, c'est que, bon, encore une fois, bon, des gens qui sont, parmi les gens qui sont venus, parmi, bon, il y a Émile Maurice, qui sera l'un de ses plus ardents, l'un de ses plus importants adversaires à partir de 1962, et surtout à partir de 1968. Il y a Jean-Baptiste Edmond, qui a réclamé la première carte, d'avoir la première carte du nouveau parti en 1958, au moment de la création du parti. Il y a Cléron à Sainte-Anne, la maire de Sainte-Anne. Il y a le maire du Prêcheur qui est également avec lui. Il y a des gens. Bon, et puis évidemment, et bon, à mon avis, peut-être plus important après le docteur Aliker, après le docteur Aliker, et ça a été Aristide Mauger, mais il y en a d'autres. Et il y en a beaucoup. Bon, et puis peut-être à partir des années 60 surtout, même dès 1958, parmi les jeunes types qui viennent, il y a par exemple Renaud de Gomaison. Renaud de Gomaison qui a été un des plus jeunes à rejoindre Césaire dès 58, et le fils de Arthur de Régis. Régis, mon prof de maths au lycée Schœlcher, il est venu au parti, mais à mon avis, sous des bases assez différentes de celles de son fils, Arthur Régis. Il y a eu quantité de jeunes qui sont venus avec des idées différentes, sans doute.
Alors, Édouard de Lépine, il ne s'agit pas pour nous de refaire, bien entendu, toute l'histoire du Parti progressiste. Il faudrait plus de temps pour cela. Là, on a vu les raisons qui ont fait que Césaire a créé ce parti, ce qu'il y a mis, mais ce serait presque une faute de style que je ne vous demande pas, en 2018, le regard que vous avez sur ce parti dont vous avez vu la naissance et dont vous avez vu, disons, tout le parcours à travers les œuvres de Césaire. Vous avez quand même un regard aujourd'hui sur le parti.
C'est une période extrêmement... C'est difficile. Le parti, c'est 60 ans d'existence. C'est 60 ans d'existence. Il y a... j'ai fait un truc de périodicité de trucs... de 1957 à 1972, par exemple, de 1957 surtout à 1967, qui est véritablement, je veux dire, le congrès de la véritable fondation du Parti progressiste martiniquais, c'est-à-dire après l'OJAM, après l'arrivée des jeunes types comme Rodolphe Désiré en 64-65. Après l'OJAM. Mais c'est vrai que c'est à partir de 67 que le parti vraiment s'affiche, un parti autonomiste, un parti nationaliste. En même temps, dans ses grandes lignes, je ne crois pas qu'il ait beaucoup varié. À certains moments, le mot d'ordre de l'autonomie a pu prendre plus ou moins d'importance, notamment à une époque où il y a eu un courant indépendantiste j'ai beaucoup fréquenté, certainement à l'extérieur, parce que moi j'étais pas au PPM, je suis rentré au PPM en 82. Je pensais d'ailleurs que, à l'époque, il fallait rentrer au PPM parce que le PPM avait besoin de militants indépendantistes convaincus. Et puis finalement, c'est eux qui m'ont convaincu. C'est le Parti communiste qui m'a convaincu. Pas simplement une décision comme qu'on prenait comme ça, et qu'il fallait pouvoir entraîner le peuple. Et que c'est le peuple qui fait ou non l'autonomie ou l'indépendance. C'est pas un parti. Et je crois que c'est ça qui est vraiment fondamental dans le PPM. C'est un rassemblement. Est un rassemblement de toutes les forces vives, à mon avis, du pays. Toutes les forces vives. Alors que, nous étions comme communistes, si vous voulez, fondamentalement, c'était la lutte des classes, c'était vraiment la lutte classe contre classe. Moi, quand j'ai laissé le parti en 1968, on m'a foutu à la porte du comité central d'abord, du parti en 1968, puis du parti en 1971. Moi, j'ai créé un groupe révolution socialiste, le groupe trotskiste. La lutte des classes, ça me paraissait vraiment la chose fondamentale. Et c'est au PPM que j'ai compris vraiment l'importance de l'unité du peuple, de l'unité, de la construction d'un parti qui rassemble toutes les forces vives, enfin le plus grand nombre, le plus large contre le plus étroit, c'est la formule utilisée par Césaire. Mais c'est enfin, à l'intérieur du parti que j'ai compris ça.
Oui, mais enfin, Édouard de Lépine, je pense que vous avez entendu ma question, mais que vous ne voulez pas y répondre, alors
oui.
Je vous la repose avec insistance, comme ça je suis persuadé que vous l'entendrez. Et le PPM aujourd'hui, quelle est votre vision? Quel est votre regard?
Non, moi je crois que le PPM essaye de se maintenir, et c'est vrai que ce n'est pas facile. Bon, alors, il y a probablement des désaccords avec le PPM à l'intérieur. Bon, je suis pas sûr que la dernière déclaration dite à Saint-Joseph, de Rivière Blanche. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais enfin, pour l'essentiel, c'est-à-dire pour le la reconnaissance de la personnalité collective du peuple martiniquais. Ça, c'est ça qui me paraît fondamental. La reconnaissance de la personnalité, de son droit à l'initiative, à la responsabilité, de son droit à l'initiative, pas le droit d'attendre quand on lui donne l'autorisation de faire telle chose. Hein, c'est-à-dire, quand on lui donne la permission de faire, non, mais le droit à l'initiative, le droit à la responsabilité, c'est-à-dire le droit de décider de son propre sort, en définitive. C'est ça le problème. À mon avis, il me semble que je ne connais pas, en tout cas, aujourd'hui à la Martinique, de parti où il y ait une aussi grande volonté, une aussi grande détermination à réaliser cette unité du peuple martiniquais, même si, encore une fois, au-delà des divergences qu'il peut y avoir entre tel ou tel courant à l'intérieur du parti, ça peut arriver. Et ça peut arriver. Et je pense que César a voulu faire, quand il a voulu faire le peuple, il a voulu faire n'importe quoi, sauf un parti de la pensée unique, une espèce de PPU. Le PPM, c'est le contraire d'un parti de la pensée unique. C'est vrai qu'il peut y avoir des divergences. Bon, vous m'avez posé une question tout à l'heure sur le créole, si je voulais faire un truc. Bon, ça me paraît pas. J'ai été un créoliste et j'ai assez emmerdé les autres, ceux qui n'y croyaient pas à cette époque-là, mais bon. Je pense que c'est une langue qui mérite qu'on étudie. Je suis d'accord pour ça, mais j'ai été élu maire du Robert, le premier truc que j'ai fait, c'est de mettre l'anglais à la maternelle. La maternelle du Verpré, on avait fait une jeune femme, une Saint-Lucienne, à l'époque. Et j'ai engagé pour enseigner l'anglais aux jeunes de la maternelle. Moi, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir parler avec nos amis, nos voisins les plus immédiats, avec cet Lucien, avec les Dominicains, mais aussi avec les Barbadiens, avec les Trinidadiens, et juste avec la Jamaïque. Bon, à l'époque, j'ai même cru à une république unifiée des travailleurs antillais. Bon, j'ai cru ça. J'ai cru qu'en offrant un truc de Cuba à Curaçao, pratiquement. J'ai cru ça. Bon, alors, en revanche, je crois que probablement, à mon avis, bon, je ne sais pas, on m'a posé la question. Moi, je ne peux pas répondre de ce que sera dans un siècle ou dans deux. Mais je pense qu'il y aura nécessairement un rapprochement avec nos voisins de la Caraïbe. En tout cas, c'est une nécessité. Et je crois que c'est beaucoup plus important d'apprendre l'anglais, l'espagnol et le portugais pour nous aujourd'hui que enfin, il faut apprendre le créole aussi. Mais enfin, il ne faut pas non plus rêver. Je ne crois pas. Il ne faut pas rêver de faire du créole la langue des Antilles. Je ne crois pas. En revanche, je pense que, mieux on parlera l'anglais, mieux on parlera le portugais, mieux on parlera l'espagnol, plus vite on avancera dans l'union des peuples antillais, des peuples des Antilles, à mon avis. Je crois.
Très bien. Eh bien, écoutez, Édouard de Lépine, voilà pour l'édition du jour. Merci de nous avoir reçus une fois de plus à votre bureau. Et nous aurons l'occasion de revenir puisqu'il existe tellement de dates à revoir. À votre avis, après cette date-là pour la création du, du Parti progressiste. Quelle est, à votre avis, l'une des prochaines dates qu'il faudrait qu'on puisse essayer de découvrir?
Le 4 avril, la naissance du journal, la naissance du journal Le Progressiste. La naissance du journal, c'est un truc incroyable. Bon, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ce journal, il y a eu des périodes de creuses, hein, bon, entre 1962 et 68, il y a eu des problèmes, 67, il y a eu des trous, des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble des écrits politiques de Césaire que je publie, il y a 460 textes. Il y a une centaine d'interventions à l'Assemblée nationale, mais il y a quelque chose comme, en gros, hein, je ne suis pas sûr, 151, 152 textes qui sont tirés du progressiste. Je crois que le progressiste, c'est un truc qu'il faut respecter, il faut prendre un soin beaucoup plus attentif à ce qu'on y met, à ce qu'on y écrit. Et je crois que c'est un journal qui est extrêmement important. C'est pas un hasard. Bon, c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que Justice, qui est le deuxième, peut-être le plus vieux journal après, avant, puisqu'il est de 1920, mais je crois que ça, ou bien mai 58, les élections de novembre 58, les élections, c'est des choses extrêmement importantes.
Très bien, on se donne rendez-vous, Édouard de Lépine, à très bientôt.
À très bientôt. Allez, au revoir.